Si vous aimez ce podcast, soutenez-le et faites-le découvrir à d'autres en laissant un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous écoutez La Philanthropie en question, le podcast qui vous emmène au cœur de la recherche sur le don. Chaque mois, la chaire philanthropie de l'ESSEC vous partage et met en perspective les grandes idées d'un chercheur, d'un article ou d'un ouvrage éclairant. Une invitation à écouter ce que nous dit la recherche pour mieux comprendre la philanthropie et ses enjeux.
Bonjour à tous. Je suis Anne Meunier, chercheuse à la chaire philanthropie de l'ESSEC, et pour célébrer ce 30e épisode de notre podcast, je vous propose une édition un peu spéciale dans laquelle je donne la parole à Amy Schiller, chercheuse à Dartmouth College aux États-Unis. Amy nous parle d'un chapitre du livre qu'elle vient de publier sur la philanthropie, intitulé « The Price of Humanity, How Philanthropy Went Wrong and How to Fix It ». En français, « Le prix de l'humanité », comment la philanthropie a pris une mauvaise direction et comment y remédier. Le chapitre qu'elle vous présente s'intitule « Cathedrals or Lives », en français « Des cathédrales ou des vies », et porte sur le scandale qui a entouré les dons lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. J'ai rencontré Amy dans le cadre de ses recherches sur Notre-Dame lorsqu'elle était à Paris et cherchait à interviewer différents acteurs autour des dons qui ont eu lieu pour Notre-Dame et qui ont suscité de vives critiques. Alors que je réfléchissais à enregistrer un épisode un peu spécial pour ce 30e rendez-vous de notre podcast, il m'a semblé très pertinent de lui proposer de nous présenter ses recherches. En effet, ce mois d'avril 2024 est également le mois des 5 ans de l'incendie de Notre-Dame, dont la réouverture est par ailleurs aussi prévue cette année au mois de décembre. Une double actualité donc, celle de la cathédrale, et celle de la sortie de ce nouveau livre dédié à la philanthropie. D'autre part, j'aimais l'idée de partager un point de vue différent sur cet événement. Le regard d'une chercheuse américaine sur ce qui s'est passé en France nous permet une fois de plus de faire un pas de côté sur une situation que l'on pense pourtant connaître. Cet épisode est entièrement en anglais. Pour ceux d'entre vous moins à l'aise avec cette langue, nous vous invitons à vous rendre sur la page de l'épisode sur le site de la chaire, où nous avons également publié la traduction de l'intervention d'Amy Schiller en français. Je vous mets le lien en description de l'épisode. Enfin, cet épisode est aussi plus long que d'habitude, car je propose aussi, après l'intervention d'Amy, une conclusion qui revient sur ses idées principales et apporte mon regard de chercheuse française sur ses travaux. Pour ce 30e épisode, nous avons voulu marquer le coup en croisant les regards sur un événement qui a marqué l'histoire récente du fundraising en France. Je donne le micro à Amy, belle écoute à tous.
Hello everyone, I'm Amy Schiller, visiting scholar at Dartmouth College and author of The Price of Humanity, How Philanthropy Went Wrong and How to Fix It, which was published in 2023 at Melville House. Today, I'm going to talk about a chapter in my book. The chapter is called Cathedrals or Lives, and it is based on research I conducted on the fundraising drive to restore Notre Dame after the 2019 fire. My book explores the meaning of philanthropy, which is literally love of humanity. I see that definition as an opportunity to define humanity in the most capacious, ambitious sense. Many donors today see philanthropy as a utilitarian practice. Influential actors like Bill Gates want their giving to produce the best quantifiable results. This leads to practices of evaluating philanthropy's efficacy based on, for example, ensuring the maximum number of lives saved per dollar. It is a very rationalist approach, very focused on efficiency and measurability, all of which ends up reducing other human beings to mere data points. The irony is that money that claims to be philanthropy, an expression of love for humanity, ends up dehumanizing the people who are supposed to benefit from it. I wanted to criticize and reject that position. And I wanted to show some redemptive possibilities as well. I wanted to show ways that philanthropy could be used to affirm the humanity of all. In order to do that, philanthropy has to try to help people not just survive, but thrive. It has to affirm the importance of creativity, connection, imagination, leisure, and wonder. The Notre Dame fire happened in Paris just before I defended my dissertation in spring 2019. Right from the start, it was clear that the fire and the response to it was a huge moment for philanthropy. Maybe even more important, it was a huge moment for public debate about philanthropy and what its role should be. Over just a couple of days, Notre Dame received billions in philanthropic pledges, and almost immediately there was a backlash that criticized restoring a cathedral as opposed to spending more on resolving social crises like homelessness. Over the course of my research, I found that it exemplified both what is uniquely wonderful about philanthropy and the unique problems that come with philanthropy in the absence of a strong welfare state. I wanted to diagnose the problems of injustice while still affirming the ability philanthropy has to affirm and sustain things of great beauty and importance, things that connect us to one another and to centuries of human civilization. I spent about a week in Paris interviewing scholars like Nicolas Duvoux and your own Anne Monnier, people who work for some of the affiliated nonprofits, as well as about a dozen average citizens. I would say the most important thing that I did was simply go to the cathedral site and watch how people related to it. I documented the panels, which at that point had these wonderful illustrations of the restoration process and what it meant for the people of Paris. I saw the scaffolding. I saw people gathering around at all hours of the day and night just to gaze upon the edifice and pay some kind of tribute, even if they couldn't go inside. I also visited several museums that had exhibits on Notre Dame's history, and from there I learned a lot about the concept of patrimoine, heritage, which is so vital in France, but a rather unfamiliar concept in the United States. I did a ton of reading on the history of cathedral financing and of Notre Dame itself, and a survey of press from the time of the fire, as well as the preceding months of controversy over Macron's tax cuts and the yellow vest protests. My reading spanned history, art history, journalism, media studies, religious studies, and even literature. There is a very special section of this chapter that shows the symbolic power of cathedrals to evoke awe, drawn from a short story titled Cathedral by the American writer Raymond Carver. The most surprising discovery for me was the veiled nature of giving in France compared to the US, where big donations are so public and so normalized. Until I started interviewing people in France, I didn't realize that philanthropy was so much more discreet and private there, so much less visible than in America. We are so used to seeing names of wealthy people on hospitals and museums and universities. If we had had an equivalent incident to the Notre Dame fire, we might have expected a big billionaire gesture. Everyone would have shrugged or applauded or rolled their eyes, but no one would have been caught off guard. That discovery really helped me understand why the big pledges from Pinault, Arnault, etc. to Notre Dame were so controversial. I learned that it was new and unusual, and probably a bit shocking, to have huge publicly announced gifts. That helped me understand that people had less exposure to these kinds of gifts. They are less accustomed to them as reflections of just how much money wealthy people actually have. Honestly, it was refreshing to hear French people react so strongly, because billionaire fortunes should be treated as shocking and kind of unseemly. The main thesis of my chapter is that Notre Dame's fundraising shows both faces of philanthropy. It shows why political failures and economic injustice are very bad for philanthropy in the long run, even if you have record-breaking gifts. And it shows that philanthropy can also affirm sacred things, heritage, history, beauty, and grandeur, and that everyone has a stake in sustaining those things. So the chapter really is about reconciling two seemingly contradictory views. What I learned from my colleagues in France was the framing of, quote, people versus stones, unquote. Meaning, how can we fund a building, a cathedral, when people are in need of food and shelter, etc.? The main question for me is, are people and stones actually mutually exclusive? Can we honor both? Throughout the chapter, I am disentangling two ideas that became conflated. That giving to restore Notre Dame somehow enabled or reinforced elitism and inequality, and that political failures brought about a responsibility for private donors to fund basic needs before they did anything else. The first main point is that we do need political justice if we are to have genuinely good philanthropy. The context matters a great deal. The fact that Macron tax cuts had gone into effect, that the yellow vest protests were going on that spring, that there was already huge strain about the rich getting richer and everyone else being abandoned by the government and struggling to get by, that political climate was especially bad for big philanthropy. The second point is that even with those political demands, philanthropy should not be expected to solve social emergencies. It is far worse to expect the rich to feed the poor instead of our public institutions and policies. So we do have to address inequality and social emergency, but not by demanding philanthropy provide the solution. I see that approach as both inadequate and counterproductive. The third main idea is that Notre Dame, and more broadly, things like cathedrals and heritage spaces and culture, are important to everyone. It is a mistake to say the only thing that matters to low-income people is having enough food and shelter, that somehow cathedrals don't matter to them, that they are elite institutions that only the elite care about. In fact, Notre Dame, from its very beginning, was an expression of the commune, an assertion that the people of Paris wanted and could build their own cathedral right in the middle of the city. It was not a monument to great wealth. It is a testimony to centuries and millions of people finding meaning and making their own offerings of any size to help sustain this incredibly special place. To conclude, Notre Dame helps us see that yes, we must have political justice, but no, we must not reduce philanthropy to a backup welfare state. Yes, it is okay and even positive to have philanthropy sustain and affirm things like cathedrals, because we need meaningful spaces that connect us to one another, to history, to ourselves. These are the things that make us human. They are exactly what philanthropy should sustain. What this chapter really emphasizes is that Notre Dame signifies how much we all need the sublime, how important it is to retaining our humanity. We should not fall for the trap that says we cannot have anything beautiful or historically significant or sacred if we have not first somehow ensured everyone's basic needs. Writing this chapter really showed me that people want both. We want a world that sustains both people and stones, and that the stones, the cathedrals of the world, help us see ourselves and others as full human beings, not just mouths to feed. So we must do both. Demand political justice and embrace the role philanthropy can play, and would continue to play even under the most egalitarian conditions, that of sustaining our cathedrals, and in turn, our souls, our humanity.
Je reprends la parole pour conclure cet épisode en revenant sur plusieurs points évoqués par Amy. Le premier élément qui me semble vraiment intéressant dans ce que nous a dit Amy est que la philanthropie n'est pas un phénomène hors sol. En effet, la philanthropie ne peut être pensée en dehors des contextes économiques, sociaux, culturels, politiques ou idéologiques dans lesquels elle s'inscrit, d'où l'importance des sciences sociales pour l'étudier. Et pour l'exemple de Notre-Dame, c'est particulièrement frappant. C'est parce qu'il y avait eu des débats antérieurs, un contexte social et politique particulier, et notamment un fossé grandissant entre élites et population, que les critiques ont été aussi marquées lors de l'incendie de Notre-Dame. La philanthropie gagne donc à être pensée et étudiée en lien avec les contextes dans lesquels elle s'inscrit. Le deuxième point est qu'Amy a trouvé rafraîchissant de voir comment les Français ont critiqué la philanthropie autour des dons pour Notre-Dame. Elle reprend ici l'idée que défend Anand Giridharadas, auteur de Winners Take All, que ce qui s'est passé en France est positif. Il est sain, même pour la philanthropie elle-même, de pouvoir la critiquer. Et en ce sens, les États-Unis gagneraient à s'inspirer de la France, même si cela commence à se faire aussi outre-Atlantique, notamment par les chercheurs. Le troisième élément à retenir est que la chercheuse insiste sur le fait qu'il ne faut pas hiérarchiser ou opposer les causes. Elle dit notamment que la philanthropie doit pouvoir aider pour les besoins essentiels des individus, mais aussi pour l'art et la culture, et que les deux ne doivent pas être exclusifs. Bien sûr, il faut offrir un toit, de quoi manger aux individus, mais elle pense que l'art est également important, aussi pour les plus démunis. La nuance que j'apporterai sur ce propos est de définir de quel art, de quel type d'art on parle. Car on sait qu'aux États-Unis, la philanthropie finance surtout l'art des élites. Par ailleurs, je pense qu'il serait pertinent de développer une approche systémique des besoins sociaux. Ne pas opposer les causes, mais voir que les humains ont besoin de plusieurs éléments pour s'épanouir. On peut s'appuyer par exemple pour cette réflexion sur les 12 besoins des humains de l'économie du donut, développé par Kate Raworth. Le quatrième aspect que je soulignerai est la vision complexe de la philanthropie qu'Amy développe dans son chapitre. Elle montre que la philanthropie est bel et bien le reflet des inégalités à l'œuvre dans le monde, mais qu'elle est également porteuse de valeurs d'humanisme et de solidarité. Je trouve que montrer cette complexité de la philanthropie est essentiel. J'en ai d'ailleurs eu un exemple récemment, lors d'une discussion avec une fondation qui finance les droits humains. Cette dernière m'expliquait que si les fondations sont parfois vues comme problématiques pour la démocratie, elles sont au contraire son dernier bastion de défense dans des pays où elle est en danger. Pour mon dernier point, j'aimerais revenir sur ce qu'Amy a évoqué en introduction. Le fait que beaucoup de donateurs voient aujourd'hui la philanthropie comme une pratique utilitaire où l'on cherche à produire avec efficacité un impact quantifiable, mesurable. Cette vision très rationalisante et quantitative de la philanthropie va parfois à l'encontre de l'esprit même de la philanthropie qui repose sur l'amour de l'humanité. Tout ce qui a trait à l'humain n'est pas quantifiable, et c'est peut-être là l'un des éléments les plus problématiques de la philanthropie actuelle. Le chapitre nous laisse sûrement à cette belle réflexion. Comment transformer la philanthropie pour qu'elle se recentre sur l'humain, qui reste le cœur de sa mission?
Vous avez écouté le podcast La philanthropie en question de la chaire philanthropie de l'ESSEC. Pour aller plus loin, nous vous invitons à parcourir les références listées en description de l'épisode. Vous y trouverez également notre site internet et notre compte Twitter. Rendez-vous chaque dernier mercredi du mois pour un nouvel épisode. À bientôt!